vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Voilà, donc nous avions médité sur Jean-Baptiste, donc et lui a baptisé d'eau, mais la promesse était eh bien, que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Les versets que nous avons lus, ces 11 versets que nous avons lus, nous relatent le ministère terrestre du Christ ressuscité. Et pendant 40 jours, il y a là un condensé dans ces 11 versets de l'enseignement, les choses concernant le royaume de Dieu, concernant la mort et la résurrection du Christ, concernant la promesse qui est imminente là, quand Jésus l'a fait, elle est imminente, la promesse du baptême du Saint-Esprit. Il est parlé aussi de son élévation en gloire dans le ciel et de la promesse aussi de son retour. Nous avons là le condensé de l'Évangile, ce qui est nécessaire de savoir. Nous avons que peu de choses. Jésus les a enseignées pendant 40 jours. Ce fut certainement des moments extraordinaires. Pendant 40 jours, ils avaient le meilleur des professeurs, le meilleur des instructeurs, le meilleur. Ils l'avaient pour eux pendant 40 jours. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus pour eux tout seul. Jésus, pendant 40 jours, leur parle de choses profondes, précieuses, qui concernent le royaume de Dieu, des choses qui ne sont pas d'ici-bas, mais des choses qui sont dans le cœur de Dieu, Jésus leur a révélé. Combien ça a dû être des moments privilégiés pour les disciples, pour les apôtres, d'entendre tout cet enseignement pendant 40 jours après sa résurrection. Les apôtres, les disciples, devaient savoir beaucoup de choses concernant Jésus, concernant Dieu, concernant la croix, concernant la résurrection, les temps de la fin. D'ailleurs, c'est la seule question qu'ils vont poser. Au verset 6, il dit, « Mais est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Est-ce la fin ? Seigneur, dis-nous. » Et Jésus va leur dire, « Votre besoin, ce n'est pas de savoir les temps de la fin que le Père a fixé de sa propre autorité, mais votre besoin le plus précieux, le plus pressant, votre besoin indispensable, c'est de recevoir le Saint-Esprit. » Jésus va leur faire donc cette promesse. Et le but du Seigneur, en enseignant ses disciples, n'a jamais été de remplir leur tête, de les remplir de savoir, qu'ils aient une connaissance seulement. Mais le but, c'est que cette parole, elle produise la vie, que cette semence, elle germe, elle pousse, elle croît, elle porte du fruit. C'est le but de la parole de Dieu. C'est une semence et qui porte du fruit. Et nous avons besoin de la recevoir telle qu'elle dans un terrain, dans un cœur qui est bien préparé et que cette parole puisse produire. C'est le seul livre. Il est unique. Tous les autres livres, même les livres des religions, ne peuvent pas produire la vie. Les paroles qui sont contenues dans notre Bible, ces paroles-là, si on y ajoute la foi, elles sont esprit et vie. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui se produit, et je prie pour qu'on retrouve cette simplicité, cette foi toute simple, cette foi qui reçoit, que nous puissions recevoir cette parole dans un cœur bien préparé. D'ailleurs, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, dira dans son premier livre, donc l'Évangile de Luc, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il a commencé de faire. Ça veut dire qu'il y a une continuité qui attend. Il a initié quelque chose. Il a ouvert une voie. Il va enrôler les apôtres, les disciples dans cette grande mission, la plus importante du monde et de l'histoire depuis 2000 ans. C'est le plus grand message, c'est le message de l'Évangile, le plus beau, le plus puissant, le plus profond, c'est le message de l'Évangile, parce qu'il concerne ce temps et l'éternité. Mais la mission la plus grande, il y a des missions qui ont été importantes sur cette terre, mais la mission la plus importante, c'est de porter le message de l'Évangile. C'est la plus grande mission, ce que Jésus a commencé de faire. Dans l'Évangile de Jean, on lira quelques textes, pas beaucoup, mais quelques-uns, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, gardez en mémoire ce que Jésus a commencé de faire. Jean 14, 12. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce que Jésus a commencé de faire, eh bien, les apôtres, les disciples vont le continuer. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à continuer à répandre ce message, continuer à répandre cette bonne nouvelle autour de nous, ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire, eh bien, les apôtres, les disciples, et nous, ce matin, nous voulons relever le défi et surtout obéir à ce que le Seigneur nous demande. À chacun d'entre nous, ce message, il est encore d'actualité. Le mandat, il est d'actualité. La mission que Jésus a confiée aux disciples, elle est d'actualité. Ce que Jésus a demandé, il nous le demande à nous ce matin. À chacun d'entre nous. Et c'est cela, en fait, la réalité de la vie chrétienne. En ajoutant la foi au message, aux paroles de Jésus, il y a la confirmation du témoignage et de la prédication. Et nous voulons nous attendre à cela, et pas moins que cela. On s'habitue à se dire, j'ai parlé, il n'y a rien qui se passe, j'ai prêché, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais il faut qu'on bannisse cela de nos cœurs et de nos têtes. Non, nous voulons ajouter la foi. Ça veut dire, je témoigne, c'est pas mon nom, c'est au nom du Christ. C'est lui qui nous a délégué son pouvoir, son autorité, c'est pas notre message, c'est le message de Dieu. L'évangile du Christ, c'est pas le nôtre. Nous n'avons aucune puissance, Nos paroles n'ont aucune puissance, mais les paroles de Jésus, appuyées par le Saint-Esprit, ont une autorité, une puissance. Nous allons au nom du Christ. Et il nous faut retrouver la simplicité, la foi, l'obéissance, pour voir aussi l'action puissante du Saint-Esprit dans nos cœurs, au travers de nous, dans la prédication et dans le témoignage. On veut se déshabituer, si le terme est exact, on veut se dire « non, 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 ce message, il est plus puissant que ce que je pense ou ce que je peux dire, je veux vraiment y ajouter la foi, je veux relever le défi ». C'est cette réalité. Dans les Actes des apôtres, certains théologiens disent, on aurait pu l'intituler « Actes du Saint-Esprit ». Jésus donna des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Il ne leur a pas dit « si vous avez le temps, si vous n'avez rien d'autre à faire, si vous vous ennuyez, eh bien je vous propose quelque chose pour tuer le temps ». Pas du tout. Il leur dit comme ordre de priorité, comme ordre important, il leur dit, il leur a donné donc cet ordre. Ah, Matthieu 28. Voilà, c'est les mêmes circonstances. Hein. Nous avons dans Matthieu 28 un petit peu plus de précision sur l'ordre de mission que Jésus a confié aux apôtres, aux disciples. Voilà, Matthieu 28, nous pouvons lire à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez !» Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà encore des paroles de Jésus lui-même. Il y a là des renseignements complémentaires de ce que nous avons lu sur l'ordre que Jésus a donné par le Saint-Esprit aux apôtres dans les actes, ce que nous avons lu. Jésus assure de sa toute-puissance, tout pouvoir, il n'y en a pas au-dessus, tout pouvoir ont été donnés à Jésus. L'étendue de la mission, l'étendue c'est le monde, aller jusqu'aux extrémités de la terre, et nous bénissons Dieu pour les missionnaires qui portent ce message, et maintenant au travers des ondes, au travers de l'ordinateur, de toutes ces choses, que le message puisse être transmis jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de cette mission, de ce mandat, faire des disciples, les baptiser et les enseigner, c'est-à-dire à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est un point où il nous faut nous arrêter quelques instants. C'est pas juste d'écouter ou de lire la Bible, de la méditer, mais le but de cette mission et le but du disciple, c'est de mettre en pratique et de vivre. Là, ça devient plus compliqué que d'écouter seulement, que d'adhérer. Mais là, de mettre en pratique, c'est un défi qui nous est lancé. Et enfin, Jésus assure de sa présence dans cette mission, dans ce mandat. Il assure de sa présence où il n'y a pas de limite de temps. C'est jusqu'à la fin du monde. Donc, de ce côté-là, il faut qu'on soit assuré. Jésus, si on obéit, il est avec nous. Si on relève le défi, si on obéit à l'ordre de mission que le Seigneur nous donne, il est avec nous. Il ne peut pas mentir. Il est avec nous. Or, si nous avons le Seigneur avec nous, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Comme quelqu'un l'a dit, Christ nous suffit pleinement. Il est à la hauteur de toutes les situations si sa présence est avec nous. Et c'est cela dont nous avons besoin, les uns et les autres. Nous savons beaucoup de choses combien de messages avez-vous entendu, avons-nous entendu, combien de messages? Si on devait les écrire, tous les messages depuis toutes ces années, combien de fois avons-nous lu la Bible? Combien de fois avez-vous lu la Bible? C'est une question à se poser, est-ce que vous l'avez lu tout entière? Est-ce que il faut la lire tout entière? Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et je dirais la lire entière plusieurs fois. Tout entière. Vous allez dire, ça prend beaucoup de temps. Ça prend le temps qu'il faut, mais il faut le faire. Parce que Dieu parle dans la Genèse, il parle dans le Lévitique, il parle dans l'Apocalypse, il parle dans l'Évangile de Jean, dans les psaumes. On aime bien les psaumes, c'est plus facile. Mais je crois que la Bible entière est inspirée. Alors nous avons besoin de la lire, de la relire, de la méditer, de l'étudier. Nous en avons parlé quelques mardis soirs. Mais nous savons beaucoup de choses. Les enseignements de Jésus, nous les méditons, nous les étudions tous les jours. Nous y croyons. Je suis convaincu que tous ceux qui sont là, nous croyons que la Bible est la vérité. Nous croyons que ce que dit Jésus, c'est vrai. Voilà, nous le croyons. Nous y adhérons. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ça se concrétise, que ça se prolonge. Il ne faut pas que ça s'arrête là, mais que ça se prolonge jusqu'à ce que ça prenne vie, qu'il y ait quelque chose qui se passe par la foi, que nous puissions voir la puissance du Seigneur se manifester, confirmer cette parole. Regardez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 3. J'ai noté les versets. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous donc en négligeant un si grand salut ? Le salut d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le message annoncé par Jésus, annoncé ensuite par ceux qui l'ont entendu. Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Est-ce qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne veut pas le faire? Oui, il veut le faire. Il faut se déshabituer. Vous me direz à la sortie si le terme est français, mais il faut se déshabituer de cela. On s'habitue presque à ce que voilà, j'ai lu, j'y crois, j'y adhère, et qu'est-ce qui se produit ensuite? Voilà, il se produit certaines choses, mais ce que le Seigneur veut faire, ça dépasse notre entendement. Parce que c'est un message tellement puissant. Paul dira que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est quelque chose de grandiose. D'ailleurs, il est dit, comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Le salut, c'est grand, c'est glorieux. Quelqu'un peut être sauvé, là, avoir l'assurance du salut, pour l'éternité. Ça veut dire que pour l'éternité, il sera auprès du Seigneur. Mais ça, c'est plus que tout l'or du monde. Toute la gloire de ce monde, c'est beaucoup plus. Je citais cette petite anecdote à la Bouilladis, je crois. Il y a longtemps de cela, dans une église où, c'était à Londres, je crois, où un grand prédicateur avait dans son église beaucoup de monde, et il a vu venir un avocat réputé aussi dans cette ville de Londres. Un avocat qui vient à la réunion. Bon, c'est une âme qui a besoin du salut, mais ce pasteur disait, mais c'est bon, là, si je vais prêcher l'évangile. Et il y avait dans cette même assemblée un petit garçon qui allait de rang en rang, vous voyez, mais discrètement, il allait vers les gens, il leur disait, il y avait juste un petit peu de retard, bon, il disait que Dieu vous bénisse. Et il parlait aux uns et aux autres. Et à un moment, le pasteur a dit, pourvu qu'il n'aille pas vers cet avocat, ça pourrait le faire fuir s'il lui parlait. À un moment donné, le petit va vers cet avocat, il lui tire la manche comme ça. Et quelques instants après, le prédicateur ne le voit plus. Ah, il dit, zut, ça a dû le choquer. Mais cet avocat fait appel au pasteur chez lui. Ah, le pasteur lui dit, oui, je sais, vous avez été contrarié. Non, je veux vous voir. Et donc, le pasteur y va, et il lui dit encore, je m'excuse pour cet enfant qui était là. Il dit, non, pas du tout. Il dit, cet enfant, quand il m'a tiré la manche, il m'a dit, est-ce que tu vas au ciel ou en enfer? Et ça l'a saisi. Il est parti et toute la nuit, c'est revenu. Et il s'est dit, je ne vais pas au ciel, c'est sûr, donc je vais en enfer. Waouh! Et quand le pasteur était là, il dit, moi, il n'y a pas de 36 solutions. Je sais que je ne vais pas au ciel, donc je vais en enfer et je ne veux pas y aller. Comment il faut faire pour aller au ciel? Et il s'est converti. Voyez, ce message dans la bouche d'un enfant, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors ce matin, aussi, hein, si vous posez la question, est-ce que je vais au ciel ou en enfer? Pour quelqu'un, ce matin, si tu ne vas pas au ciel, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Mais en sortant de ce lieu, il faut que tu connaisses ta destination éternelle. Aller au ciel, c'est tellement glorieux. Ce grand salut, annoncé, proclamé, témoigné, a été confirmé. Il faut que nous soyons convaincus que ce message que Dieu nous a donné, qu'il nous a confié à chacun, chaque disciple, chaque chrétien, est un message puissant, capable de transformer la vie des gens, des autres, comme il a transformé la nôtre. Si ça a été puissant pour nous, eh bien ça le sera aussi pour les autres. Si ça a transformé notre vie, ça va transformer la vie de ceux à qui nous allons témoigner. Il faut que nous le croyions, parce que nous étions loin de Dieu les uns et les autres. En tous les cas, je parle pour moi, j'étais très très loin de Dieu. Et ce message a percuté mon cœur. Donc pourquoi il ne le ferait pas pour les autres? Moi je crois qu'il peut le faire pour quiconque. Ce message, il est tellement puissant. Dans l'ordre de mission que Jésus nous a confié, il y a un caractère d'urgence. Allez. C'est pas vous y... Non, allez. D'ailleurs, les disciples ont dit un jour, dans Jean au chapitre 4, Jésus leur dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Levez la tête, regardez, la moisson est blanche. Est-ce que nous voyons que les gens attendent quelque chose? Ils ne savent peut-être pas quoi. Et dans ce contexte très difficile que le monde entier traverse, plus ou moins, mais ce contexte qui est très difficile, je crois que si nous n'avons pas obéi à l'ordre du Seigneur, je crois qu'il n'est jamais trop tard, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'angoisse, des dépressions, un nombre incalculable de dépressions. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, ne savent plus. Tout ce sur quoi ils ont fondé leur vie est en train de s'écrouler. Ils ont besoin du message de l'Évangile, ils ont besoin de Jésus. Et nous l'avons reçu. Nous avons Jésus. Et ce que le Christ nous a apporté, enfin... Il nous a apporté la paix quand même, la joie, l'espérance. Même si nous sommes privés de liberté. Bon, on préfère la liberté, mais si nous en sommes privés, si nous sommes privés de quelques biens terrestres, si nous sommes privés de... Mais ça ne va pas altérer la paix que le Seigneur nous donne. Et ça n'altérera pas l'espérance que le Seigneur nous donne. C'est Jésus qui nous la communique. Elle vient de lui. Il y a donc ce caractère d'urgence. Il y a cette importance, il y a cette étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, tous les peuples ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Les peuplades les plus reculées ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et je ne sais pas s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui avait reçu ou qui recevra l'appel du Seigneur pour aller en mission. Pourquoi pas ? Ça vous choque ce que je dis ? Je vous vois... Ben, bien sûr, pour relever ce défi, moi je ne sais pas. Moi le Seigneur ne m'a pas appelé en mission, mais peut-être quelqu'un se dit, voilà, ça fait des années que ça travaille mon cœur. Alors, on peut se dire, oui, mais le contexte est difficile. Oui, c'est vrai, mais quand Dieu parle, il conduit et il pourvoit. Il faut que les ordres de Jésus, notre mission en tant que chrétiens, nous habitent, nous propulsent, nous motivent. C'est notre mandat. C'est notre mandat. C'est ce que le Seigneur nous demande. Pas tous prédicateurs, mais tous témoins. Tous témoins. Et nous devons être loin du Saint-Esprit pour témoigner. Et on va le voir un petit peu plus loin. Si nous voulons résumer notre vie chrétienne, je l'ai déjà dit, à l'intérieur, c'est de l'Église, c'est prière, adoration, enseignement, voilà, communion fraternelle, ça c'est à l'intérieur de l'Église. Mais ce qui se passe à l'intérieur doit se prolonger à l'extérieur par notre témoignage, par un amour pratique vis-à-vis de ceux qui sont dehors, de ceux qui sont perdus. C'est pas une option, c'est pas une activité. Et je crois que parfois, en ayant fait des activités, j'ai l'impression qu'on a un petit peu dénaturé la mission que nous avions. C'est pas réservé à quelques-uns qui font une activité. L'évangélisation, le témoignage, c'est chaque croyant. Chaque croyant. Et qu'est-ce qu'il faut pour témoigner ? Il faut une organisation, une équipe, il faut rien de tout ça. Pour témoigner, il faut être loin du Saint-Esprit et ouvrir la bouche. Avoir compassion, bien sûr, de ceux à qui l'on parle, et il faut le faire. Il faut le faire, parce que le Seigneur revient. Alors je me réjouis de quand on me demande des évangiles, des Nouveaux Testaments, nous en avons hein, des évangiles, il y en a encore plusieurs milliers d'évangiles de Luc. Alors je me réjouis quand on me demande des Nouveaux Testaments, des Bibles, quand des frères et sœurs commandent des calendriers, et ce matin ils sont arrivés, ils étaient là, et certains commandent 2, 3, 10 calendriers. Bien sûr, derrière il y a une intention, en prenant 10 calendriers, c'est pas pour soi. 10 calendriers, eh bien ça prévoit un témoignage et donner quelque chose à ceux à qui nous avons témoigné. On anticipe, on prépare. Si je ne réponds pas à l'ordre de mission, je n'ai pas besoin de commander quoi que ce soit, de prendre des évangiles, des Nouveaux Testaments, ce n'est pas la peine, si je ne veux pas. Mais si je veux répondre à l'ordre du Seigneur, qui n'est pas négociable, bien sûr on n'est pas obligé, on peut dire non. Moi je veux vivre pour moi, pour ma famille, voilà, ça suffit. Mais ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de le servir. Et le servir dans le témoignage, parce que nous avons reçu. Parce que nous, on est heureux là. On est satisfait parce que quelqu'un nous a témoigné. Ce message que nous avons reçu, il n'est pas tombé tout seul du ciel. Des frères et des sœurs qui étaient avant nous dans l'Église nous ont témoigné. Et nous sommes sauvés. Et on peut dire, merci Seigneur, bon, moi j'ai été sauvé, maintenant ce message il s'arrête à moi. Il ne va pas continuer plus loin. Mais c'est triste. C'est triste et c'est grave. Parce que le Seigneur nous dit non. Non, non. Le message, il doit continuer. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, ça doit continuer. Les apôtres ont relevé le défi, les disciples ensuite, et dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu eh bien, des hommes et des femmes qui ont relevé le défi, en fait, relevé le défi, non, ils ont obéi, tout simplement, à l'ordre du Seigneur. Et si l'Église est là, c'est que des frères et sœurs avant nous ont construit. Je ne parle pas des bâtiments, je parle de l'Église. Ont pris soin, ont témoigné. Des gens se sont convertis, se sont fait baptiser, ils ont étudié les Écritures, ils ont continué le message. Alors que Dieu nous aide. Je me réjouis quand j'entends prier, et de suite, là, quand quelqu'un prie pour quelqu'un à qui il a témoigné. Ça réjouit mon cœur chaque fois. Je me dis, ah, il y a une espérance que quelqu'un reçoive le message, se convertisse, et à son tour devienne disciple de Jésus, un adorateur en plus, un intercesseur en plus, un témoin en plus, quelqu'un qui va propager. C'est beaucoup, quand quelqu'un se convertit vraiment, ben c'est beaucoup, parce que ça va faire tout ça, ça va faire un adorateur dans l'Église en plus. Il va adorer le Seigneur, mais ça va faire aussi quelqu'un qui va aller là où moi je ne peux pas aller. Lui va pouvoir y aller, ou elle va pouvoir y aller. Moi, je ne peux pas parler à certains, mais chacun de nous, là où nous sommes, eh bien, nous voulons témoigner, parler de Jésus. Il y a quelques jours de cela, la semaine dernière, je recevais un coup de fil des pompes funèbres, et ils me demandaient si j'étais d'accord pour faire un service d'obsèques. Alors, bien sûr, j'étais d'accord, hein, mais je ne connaissais personne. Donc j'ai pris contact avec le fils de la maman qui est décédée. Donc, et jeudi là, de cette semaine, le 3 à midi, j'étais au crématorium là, d'Aubagne, et puis j'ai annoncé le message. Il y avait 12 personnes, d'ailleurs c'était 20 maximum, mais il y avait 12 que de la famille. Et je leur ai annoncé le message d'espérance, le message de salut. Vous ne pouvez pas savoir, en même temps, il y avait la tristesse pour eux d'avoir perdu une maman. Elle avait 90 ans, mais c'est une maman quand même. Il y avait de la tristesse, mais en même temps, moi, il y avait une joie intérieure de me dire, eh bien, ils peuvent être consolés, ils peuvent avoir une espérance et ils peuvent être sauvés. 12, et je suis parti d'a priori que les 12 avaient besoin du message de l'Évangile. C'est beau, il faut que nous retrouvions, voilà, la simplicité du témoignage, de la foi, de l'obéissance spontanée au Seigneur, et de nous attendre à voir du fruit, du résultat, la puissance du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons. Il faut nous attendre à cela. Parce que si on ne va pas, on attend, on attend, on attend, on attend, ben il se passera du temps. Mais rien d'autre. Mais si on relève le défi, eh bien, on va voir des choses. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés les uns et les autres. Frères et sœurs, il nous faut revenir, comme je le disais, à cette simplicité, cette obéissance, le témoignage, que le témoignage ne soit pas très occasionnel, mais que le témoignage devienne régulier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le témoignage devienne régulier? Première des choses. Là, il faut parler fort, sinon je... Oui, notre comportement. Mais la première des choses, prier. Mais, je dirais presque, en même temps que la prière, il faut une compassion pour les perdus. Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Alors il nous faut penser à ceux qui sont perdus. Où ils vont? En enfer. Waouh! Des fois, c'est des membres de nos familles qui vont en enfer. S'ils meurent, ils vont en enfer. Ça ne peut pas nous laisser indifférents, froids. Il faut que le Saint-Esprit réchauffe, rallume quelque chose, disant « je vais prier » et peut-être on priera avec larmes. pour les perdus, pour ceux qui sont autour de nous, mais pour nos voisins. On passe à côté chaque jour, et moi comme vous, hein, on a eu l'occasion, mais bon, on passe à côté, et celui à côté de qui on passe, s'il meurt, il part pour l'éternité loin de Dieu. Il faut que ça nous... quelque chose se passe dans notre cœur. Ouais. Qu'il y ait de la compassion, de la prière chaque jour, chaque jour. Et Dieu va favoriser des occasions. Si nous avons tellement à cœur, si nous prions tellement avec ferveur pour le salut, il va se passer quelque chose. Dieu va favoriser des circonstances. Et on va s'apercevoir, dire, mais jamais j'aurais pensé témoigner dans ça, et puis ça a été possible. C'est Dieu qui fait les choses. Je suis toujours stupéfait de voir des gens qui ont embrassé une cause qu'ils pensent bonne, bien sûr, et ce qu'ils croient, ce qu'ils véhiculent, pensent que ça peut changer quelque chose dans la société. Qu'ils mettent tellement d'énergie, de zèle, d'enthousiasme. Je me souviens, en étant enfant, je me souviens tous les dimanches matins, il y avait des gens qui sonnaient à notre porte pour nous vendre un journal d'un certain parti politique. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais tous les dimanches matins, c'était des bénévoles. Vous savez, à 8h, 8h30, 9h du matin, passaient pour vendre un journal. Et c'était de maison en maison, de porte en porte. Pourquoi le faisaient-ils ? Parce qu'ils étaient convaincus que si on appliquait ce que leur parti mettait, eh bien, la société serait mieux. Et parce qu'ils en étaient convaincus, ils le faisaient. Ils le faisaient. Et nous, est-ce qu'on y croit vraiment ? Est-ce qu'on croit que ce message de l'Évangile peut changer la vie de ceux qui sont désespérés, de ceux qui sont en dépression, de ceux qui sont malades, des enfants malheureux, et il y en a dans notre pays, dans notre ville, des enfants malheureux, des personnes âgées qui attendent de la mort, qui attendent de la mort, de ceux qui sont seuls, sans espérance, il y en a, et il y en a beaucoup. C'est pour eux que le Seigneur est venu, c'est pour eux que le Seigneur nous envoie. Pour tous ceux qui, d'un instant à l'autre, peuvent basculer dans l'éternité, loin de Dieu. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une conscience très éveillée par rapport à ce que sera une éternité loin de Dieu. Quand on y pense, ça donne un peu le tournis. Ça donne le tournis. On se dit, mais c'est pas possible. Une éternité loin de Dieu, de remords, de regrets. Et je crois que plus ceux qui ont entendu l'Évangile une fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, qui n'ont pas pris position, qui ne se sont pas engagés, de dire j'étais là, j'entendais le message, j'assistais, j'ai vu des choses, et jamais... Waouh ! Moi, je ne veux même pas y penser à ça. Je me dis, il faut que tous nous tournions vers le Seigneur. Il faut que tous ceux qui entendent, tous les membres de nos familles, qu'aucun reste en arrière, tous ceux pour qui nous prions, eh bien, qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Que faisons-nous pendant ce temps ? Pendant que des gens, eh bien, peut-être vont passer par l'éternité, parce qu'il en meurt tous les jours, des gens. Que faisons-nous ? Que fait-on ? Des ordres de Jésus. Est-ce que je reconnais toujours Jésus comme mon Seigneur, celui qui a tous les droits sur moi, celui à qui j'appartiens, et celui à qui je dois obéir ? Est-ce que je le reconnais comme Seigneur ? Ah, le salut, Jésus mon sauveur, le salut, on l'a accepté, on veut jouir de cela, mais Jésus mon Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, il y a des paroles terribles quand on les lit dans Matthieu 7. Je vais vous conduire dans Matthieu 7 au verset 21, où il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh, il y a des paroles qui... Mais bon, ça fait partie de l'Évangile et nous devons y prêter attention. Attention que je ne réécrive pas mon Évangile, mon ordre de mission à moi. Que je reçoive, on veut recevoir, toujours recevoir, recevoir, recevoir. Non, l'Évangile c'est je reçois, je médite, j'entends la prédication, je reçois quelque chose, un don spirituel, peu importe, et il est destiné à être communiqué. Allez, ne soyons pas comme la mère morte qui reçoit beaucoup, mais qui donne très peu, mais soyons comme la mère de Galilée, de Capernaum, qui reçoit beaucoup et qui donne beaucoup. Quelle est la différence entre les deux ? Une, il y a la vie, une vie abondante, et l'autre, il y a la mort. C'est la différence. Certains me disent peut-être, mais moi j'ai des difficultés, je ne me sens pas capable, je n'ai pas d'occasion, c'est trop difficile. Il y a tellement d'objections que nous pourrions donner. Mais si Jésus nous donne un ordre, c'est qu'il nous aide et il nous rend capable de l'accomplir. Sinon, ça serait terrible s'il nous disait « Allez-y, mais je sais que vous ne pouvez pas. » Non, la réponse du Seigneur, elle est là. Et nous l'avons. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1:8, nous l'avons lu. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, chez vous, et de plus en plus loin. » Je crois que c'est le besoin le plus urgent de l'Église, je l'ai déjà dit, je le souligne encore, et il faut tout faire ce qui est dans notre possibilité, de notre côté, nous mettre en position, en disposition pour recevoir le Saint-Esprit, pour être rempli. Le besoin le plus urgent, c'est la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, sur ma vie, dans votre vie, le baptême pour les uns, le renouvellement pour les autres. Dans le Saint-Esprit, que ça bouillonne, que à nouveau il y ait cette vie qui soit là, que ce Saint-Esprit rallume la flamme de ce message si glorieux de l'Évangile. Dans le ministère de Jérémie, dans l'Ancien Testament, il a eu un ministère très très difficile, comme tous les prophètes. Et à un moment donné, tellement qu'il était raillé, combattu, il dit « je ne veux plus parler, je ne veux plus annoncer ce message, mais même si je veux faire ça, il y a dans mon corps un feu qui me consume, qui consume mes os, un feu qui est là et je ne peux le contenir. » C'est ça le témoin. Ah, des fois on nous a dit « non, mais... tu es fou, tu es ceci. » Alors, ça nous bloque et on se dit, ouais, je parle, ils ne veulent pas. Mais si un n'a pas voulu, il y en aura un autre. Si 10 ont refusé, il y en aura peut-être un autre qui va accepter. En moi, il y a un feu. Que le feu du Saint-Esprit brûle encore et à nouveau dans nos cœurs, dans nos âmes, et que ce message y reprenne tout le relief, toute la puissance, et se dire, non, je ne peux pas me taire, je ne sais pas comment faire, mais je sais que le Saint-Esprit va me conduire, je sais qu'il va y avoir des circonstances, je sais que Dieu va placer des âmes, je veux prier, je veux jeûner même pour que des âmes soient sauvées dans ma famille, autour de moi, dans mon voisinage, je sais que le Seigneur va agir parce qu'il ne nous a envoyés pas pour prêcher dans le vide, témoigner dans le vide, mais s'il m'envoie, c'est pour qu'il y ait du fruit, du résultat, Dieu va le faire. Est-ce que je veux vivre pour moi ou pour Christ ? Voilà, c'est là toute la différence. Si je veux vivre pour Christ, alors je veux obéir à ses ordres. Si je veux vivre pour le Christ, alors j'ai besoin, et c'est indispensable, du Saint-Esprit. Sans ça, c'est impossible. C'est des raisonnements humains. Ce sont des paroles, on veut essayer de convaincre, mais ça ne fonctionnera jamais. Soyons simples avec les gens. Moi, je pense toujours à cet aveugle dans Jean au chapitre 9. Mais comment il t'a guéri? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écoutez, moi je sais. Une seule chose, je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà le témoignage. Disons ce que le Seigneur Jésus a fait dans notre vie et c'est amplement suffisant. Ils n'ont pas besoin d'un discours théologique pour les convaincre, ils ont besoin de voir que l'Évangile, c'est une puissance, c'est un message qui sauve et c'est un message qui donne une espérance vivante. Ils ont besoin de savoir ça. Et nous, en tant que témoins, dire « mais ça a marché sur lui, il a été béni, donc ça va le faire pour moi ». Pas plus compliqué, le témoignage. Je veux vivre donc pour le Christ. Alors comment puis-je le recevoir, le Saint-Esprit, ou le recevoir à nouveau? Il n'y a rien de changé depuis 2000 ans, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans Actes 2, 38, nous voyons Pierre qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit veut remplir un cœur purifié, sanctifié. On ne peut pas remplir un cœur où il y a beaucoup de mauvaises choses. Et je pense toujours, le symbole du Saint-Esprit, c'est un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Et nous voyons dans la Genèse, quand Noé a lâché le corbeau, il n'est plus revenu. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé des débris, des cadavres, je ne sais pas, qui flottaient, parce que c'était le déluge, hein, et il est resté là. La colombe, elle est sortie, elle est revenue. Jusqu'à ce que la terre puisse sortir de l'eau, une terre lavée, une terre nouvelle, et qu'il y ait donc des arbres qui soient là, et la colombe a ramené donc une branche, voilà. Donc il y a ce symbole de pureté. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur qui est déjà rempli de mauvaises choses. En pensée, en parole, en acte, il y a des choses. Il faut que nos cœurs soient purifiés, sanctifiés, pour que le Saint-Esprit puisse être à l'aise et puisse nous conduire. Alors, il n'y a pas d'autre chose que la repentance. Hein. C'est la même chose depuis 2000 ans. Il faut se repentir devant le Seigneur. Il faut se repentir de paroles, de choses, afin que le Saint-Esprit puisse y trouver sa place. Et je terminerai pour peut-être introduire pour un prochain message. Nous poursuivrons cette méditation des hommes de la même nature que nous. Ont répondu à l'ordre de mission de Jésus. Ils ont été persécutés, parce que si on ne veut pas être persécuté, ne disons rien, ne faisons rien, restons chez nous, on ne sait peut-être même pas qu'on est chrétien, voilà. Là, la persécution, elle ne viendra pas. Mais si on veut obéir au Seigneur, on va trouver de l'adversité, on va trouver de la persécution. Et je me dis, nous, dans notre pays, encore, la persécution, c'est quoi? Une moquerie? Nos frères et sœurs dans certains pays, ce soit la prison, la mort, l'enlèvement de leurs biens, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils affichent, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils n'en ont point honte, ils proclament, et bien sûr, ça attire. Alors si on est tellement discret, on ne dit rien, on ne sait rien, voilà, on ne sera jamais persécuté. Mais, et Paul le dit dans Galates au chapitre 6, bon, le temps tourne, voilà, eh bien, ils ont été persécutés, mais ils ont été les témoins. Et ils rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection de Jésus. Un Jésus vivant, un Jésus agissant, un Jésus puissant. Voilà, ils ont été ces témoins. Ils ont porté le message et ils ont vu Jésus agir. À nous aussi, je dirais, c'est pas une option, c'est comme ça, si nous sommes chrétiens, vous et moi, nous devons obéir à l'ordre de mission. Que ce soit dur ou pas, que ce soit... Si le Seigneur nous envoie et il dit qu'il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. On va prier le Seigneur.